Bonjour, comment s'y retrouver dans l'offre pléthorique de vins en ligne? Des déclinaisons de chaînes de magasins, des discounters, des applications, des spécialistes du nature, du bio, les sites marchands sont légion et s'y retrouver relève parfois du parcours du combattant. Disons-le tout net, nous avons ici un penchant très net, oui c'est vrai, pour les cavistes que l'on rencontre en chair et en os. Pour autant, nous ne sommes pas sectaires et il convient, comme en toute chose, de souligner et mettre en avant ceux qui sortent du lot, qui à nos yeux travaillent dans le respect du vin et des consommateurs. Et après l'épisode pandémique que nous venons de vivre, ils ont été utiles, les cavistes en ligne, pour satisfaire nos envies de nos fils lorsque les cavistes physiques et bien ancrés dans nos centres-villes étaient fermés. Acheter du vin en ligne, pourquoi pas? L'important est d'acheter de beaux et bons vins, proposés, si possible, par des vigneronnes et des vignerons talentueux. Ce 67e épisode se nomme « Tristan de Pau, caviste en ligne d'exception ». Bienvenue dans la Terre à Boire. Bonjour Tristan de Pau.
Bonjour.
D'abord, est-ce que c'est comme ça qu'on prononce? Parce que Tristan, l'orthographe Pau, est surprenante. D-E-P-A-U-W.
C'est flamand, ça veut dire « le pan ».
D'accord. Donc des origines.
Donc je suis du Nord.
Belge.
Non, du Nord.
Ah,
de la France.
Oula. La Flandre.
La Flandre française.
Française, entendu. Je suis ravi de t'accueillir ici. Merci d'avoir accepté cette invitation. On a mis un peu de temps à se caler. Il y a eu une pandémie qui est passée par là. Mais voilà, nous voilà enfin réunis. Et puis merci d'avoir fait le trajet puisque tu viens de Lyon pour participer à ce podcast. J'espère que tu as groupé avec d'autres rendez-vous quand même pour pas venir rien que pour nous, même si ça nous fait très plaisir. On va donc parler de ce site, Vigneron d'exception, que tu as fondé en 2013. Je te présente les gens qui sont autour de la table. Patrice Defay, bonsoir.
Bonsoir.
Et notre vigneron podcasteur vigneron, dans quel ordre on le met, Philippe Viette, salut.
Inversement.
Proportionnel
et inversement.
Comment ça va?
Ça va très bien. Un peu occupé en ce moment, mais ça va bien.
On est fin juin, donc dans la vie de la vigne, qu'est-ce qui se passe la fin juin?
Qu'est-ce qui se passe à la fin juin? Sur certains secteurs précoces, on est proche de la fin de la nouaison, donc fermeture de grappe. Quasiment.
Fermeture de grappes, ça veut dire?
Ça veut dire, en fait, que les grappes sont formées, que les grumes de raisin, en fait, sont collées les unes aux autres. Et donc, c'est à peu près à ce moment-là qu'on va arrêter les traitements, en prévision des vendanges qui vont être assez précoces cette année.
Autour du 20 août.
On parle autour du 20 août. Néanmoins, avec le mois de juin qui a été assez pluvieux et puis assez frais, on a peut-être perdu un peu de l'avance, ce qui est pas plus mal, je pense. Puis on a refait un peu. Enfin, nous, on a pris beaucoup de pluie pendant le mois de juin, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en prévision de l'été chaud et potentiellement sec qui s'annonce. Et puis voilà, on finit. Un peu de désherbage au rotophile.
Mécanique chez toi, bien sûr.
Ouais, rotophile et puis pas bah, parfois avec les mains. En fait, j'ai arrêté le passage des charrues là il y a 2 semaines. Voilà, faut pas trop, tasser. Tasser, puis pas trop fusiller les sols non plus. Voilà, puis surtout pendant la période de nouaison où la vigne a besoin de toute son énergie.
On goûtera un de tes vins, une de tes cuvées. On prendra des nouvelles de ces bébés là,
ouais, bien
que
sûr,
tu nous avais présentés en décembre.
En fait, en parallèle à la vigne, il y a toute la mise en bouteille des 19 là, qui a lieu en ce moment. Et c'est un peu rock'n'roll.
Et on va les découvrir ensemble. Tristan, tu as fondé donc ce site, Vigneron d'exception. Je le disais un peu dans l'intro, le prend pas mal, mais c'est vrai qu'ici on défend bec et ongles les cavistes qu'on peut rencontrer, avec qui on peut discuter. On les compare souvent à des libraires, donc on aime beaucoup les cavistes. Pour autant, le vin en ligne, ça existe. On a tous eu l'occasion d'acheter du vin en ligne. Parfois, c'est le seul moyen d'obtenir certains vignerons. Il nous importe aussi de souligner... les sites qu'on préfère, il y a de tout, comme je disais aussi en intro, il y a de tout. Il y a la grande distribution qu'on retrouve en ligne, il y a des gens qui font dans des segmentations très précises de forcément vin nature, bio. Toi, le site s'appelle Vigneron d'exception. Déjà, est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça signifie ce nom dans le parti pris de départ. Après, on reviendra sur l'historique, etc. Mais à titre introductif, en pourquoi vigneron d'exception?
Ma réflexion, elle était venue de mon expérience personnelle, puisque j'ai commencé à travailler il y a une petite trentaine d'années à Bordeaux, et qu'à Bordeaux, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup. On parlait de propriété, mais que les propriétaires n'étaient pas ceux qui faisaient les vins. Ils avaient des maîtres de chais, des chefs de culture, des choses comme ça. Et j'ai appris le métier de la vente à distance. Internet n'existait pas, donc j'ai appris le métier de la vente à distance en envoyant des catalogues chez les gens pour un gros négociant bordelais. Et ce gros négociant bordelais, en fait, avait des allocations chez tous les grands crus classés de Bordeaux et empilait les caisses jusqu'au plafond et vendait via ses catalogues, en livraison à domicile, des caisses de 12 entières à des gens qui avaient des caves. Et pas forcément des gens, justement, qui allaient chez le caviste s'acheter une bouteille, parce qu'effectivement, les cavistes, bah, ils ont la place limitée, forcément, donc ils peuvent pas empiler des caisses de grands vins jusqu'au plafond. Ils ont aussi parfois des trésoreries limitées, etc. Donc, je trouve que ce métier de livraison à domicile, qui existe depuis toujours, hein, les Trois Suisses, la Redoute, les Bordelais l'ont adopté bien avant les autres. Et moi, j'ai été formé à ça puisque j'ai commencé à travailler à 23 ans chez ce 24 ans chez ce gros négociant bordelais. Et petit à petit, ben voilà, je me suis mis à Internet comme tout le monde. J'ai monté une société et je me suis dit, ça n'existe pas encore de faire ça hors de Bordeaux. À Bordeaux, on parle beaucoup de Bordeaux, mais pas beaucoup du reste. Donc, pourquoi pas faire comme mon ancien employeur qui rencontrait un joli succès, qui s'appelle aujourd'hui Millésima et qui est relativement connu. Et je me suis dit, je vais faire le Millésima des pas Bordeaux. À Bordeaux, on dirait le Millésima du reste du monde. voilà, donc je me suis dit, et puis pour pas me fâcher avec eux, parce que je m'entends très bien avec eux toujours, je me suis retrouvé à monter une espèce de gamme la plus idéale possible avec mon expérience de 25 ans de dégustation et de vente de vin. Je me suis retrouvé à essayer de contacter les vignerons que j'aimais petit à petit pour essayer d'avoir un panel on va dire tout sauf Bordeaux pour faire simple et de les stocker petit à petit pour pouvoir les livrer aussi par carton, parce que la livraison à domicile, c'est extrêmement compliqué de le faire à la bouteille et on perd tout ce qu'on a. Donc pour être à peu près rentable, puisque j'ai pas de gros investisseurs ni de gens qui comblent mes trous de millions en fin d'année, je suis obligé d'être rentable.
Voilà. Alors on va revenir effectivement sur l'offre et ce que moi je trouve intéressant dans Vigneron d'exception, c'est .com, hein.
Oui. Pion.fr existe aussi.
Patrice, Philippe, comment vous situez ce magasin en ligne de vin parmi cette offre pléthorique?
Plutôt pointu, en fait, avec des vignerons un peu emblématiques de leur... de leur région. Ouais.
T'es allé sur la page Beaujolais, tu as vu les noms...
Évidemment. Beaucoup de noms qui résonnent, comme les Desvignes, Métra, Foyard,
Marcel Lapierre,
des gens qui font des beaux vins. Puis même sur les autres régions, hein, il y a des très belles signatures. C'est bien sélectionné.
Moi je trouve que c'est une espèce d'intermédiaire entre le site de mes vins préférés par Tristan de Pau et puis le grand site de vin. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cet équilibre, on a l'impression que c'est que des coups de cœur en fait du fondateur du site, mais du coup il y a tellement, l'offre commence à être grande qu'on commence à être sur un choix hyper intéressant. Ouais, plus, donc, j'ai l'impression que c'est une pléthore de coups de cœur et je trouve ça assez...
Plus
assez
des bien. Prix qui sont...
tout à fait raisonnables.
Qui sont tout à fait raisonnables.
Ouais. Donc je dirais que voilà, c'est un site de vin d'esthète, et puis ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a quelques noms où c'est presque impossible d'en avoir normalement. Je parle notamment au Claude Lambray, qui à mon avis faut avoir une allocation, etc. Enfin, il y a quelques pépites au-delà des excellents vins qu'il y a, il y a quelques pépites en plus.
Oui, alors ça c'est souvent des gens avec qui on s'entend bien, etc.
Bien sûr, qui
nous donnent en fait des allocations, alors qu'en fait effectivement ils ont l'habitude de dire non à tout le monde. Mais finalement, le fait d'être derrière un écran toute la journée quand même, c'est assez compliqué de prendre du temps pour aller rencontrer les vignerons. Et donc on est obligé aussi un peu de faire en sorte que de travailler en fait avec les gens qui sont quand même capable de répondre au téléphone ou de répondre à un email. Et parfois, ça fait une sélection un peu naturelle. Quelqu'un qui lit pas ses emails, etc. J'aurais du mal à travailler avec lui parce que je pourrais pas lui commander de vin. Je pourrais pas savoir comment.
Pratico-pratique,
ouais. Voilà, je pourrais pas savoir comment ça se passe dans ses vignes si j'ai besoin de d'écrire quelque chose sur lui, etc. Parce qu'évidemment.
Si je peux me permettre, c'est quoi votre ta définition d'un vigneron d'exception?
Pour moi, c'est quelqu'un qui fait encore le vin lui-même, parce qu'il y a des grands noms dans le Rhône qui faisaient des très 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 bons vins et qui ont tellement grandi qu'ils ont été obligés de le faire par d'autres. Donc pour moi, un vigneron d'exception, c'est soit quelqu'un qui a un caractère exceptionnel aussi, donc qui fait pas forcément le meilleur vin de son appellation ou le meilleur vin de France, mais qui est quelqu'un qui croit réellement à ce qu'il fait et qui a une vraie vocation pour ça et qui pourrait très bien faire plein d'autres choses, mais qui est complètement passionné là-dessus, ou quelqu'un qui fait réellement des choses terribles, enfin terribles au bon sens du terme. Et là, on peut que se mettre à genoux et puis déguster et puis essayer d'en avoir pour en faire profiter ses clients.
Et du coup, le fait, parce que quand on a une exception, il y a très peu de Bordeaux, c'est juste pour pas mâcher sur les plates-bandes de millésima, c'est parce qu'il n'y a pas de très bon vin à Bordeaux, ou c'est juste parce que...
Non, j'ai beaucoup de Bordeaux dans ma cave.
Non, mais je parle du site, là.
Non, mais si je disais qu'il n'y avait pas de très bon vin à Bordeaux, je pense qu'on... Non, initialement, c'était parce que je n'avais pas les moyens. Parce que j'étais quasi autofinancé quand j'ai lancé la société, donc il était beaucoup plus facile d'acheter 60 bouteilles en terrasse du Larzac qu'à Pauillac. Voilà. Donc de surcroît, il y avait vraiment beaucoup de gens qui vendaient déjà depuis deux siècles. Les Bordelais vendent à distance, livrent à domicile, chez les Anglais.
Ce qu'on savait pas à l'époque, c'est que c'était visionnaire. C'est qu'il fallait acheter le terrasse du Larzac à ce moment-là pour être en avance sur tout le monde.
Et depuis, en fait, la fondation de
Vigneron d'exception.
De Vigneron d'exception, ou même, on va dire, avant, au travers de toutes tes rencontres et dégustations, est-ce qu'il y a vraiment une rencontre avec un vigneron d'exception qui t'a marqué?
Je saurais pas en dire
à part
une.
Ce soir, il veut dire.
Non, mais ça pourrait être effectivement, ça pourrait être les Desvignes, parce que c'est pas un vigneron, c'est une vigneronne et un vigneron.
Oui, c'est ça.
C'est un frère et une sœur.
En Beaujolais.
Et très sincèrement, j'étais scié quand je les ai rencontrés, parce que moi, je les mettais sur un piédestal parce que j'adorais vraiment leur vin. Ils ont une cuvée qui s'appelle
Les Impénitents,
qui est juste incroyable, sublime. Avec un petit mouton noir dessus.
Les Desvignes, on est dans quel
Beaujolais?
On est à
Morgon. Mais encore.
J'ai un vigneron du Beaujolais en face.
On est à Morgon, rue de la Voûte.
Je te montre pas là.
Je la donne.
À côté de la place du vin.
Je la donne. Il y a un bureau de tabac tout près. Il faut impérativement y aller.
Et ils sont à la Voûte Saint-Vincent.
Voilà, Voûte Saint-Vincent, voilà.
C'est le nom de leur petite cuvée.
C'est le nom de la petite cuvée. Le père, c'est Louis-Claude. Je sais plus quelle génération de vigneron, mais c'est un grand monsieur qui a un peu plus de 80 ans. Un puits de science, quelqu'un qui est charmant, qui est toujours volontaire pour donner des conseils, transmettre, échanger.
Et ses enfants en ont bénéficié.
Et les enfants, Louis-Benoît et puis Benoît et Emmanuel, on va dire Emmanu, forcément ont hérité un peu de ce caractère-là. Au début, c'est Emmanuel en fait qui avait repris un peu les vignes. Louis Benoît s'était engagé dans une voie avec l'architecture ou le design, je crois, et puis est revenu sur le domaine quelques années après. Et ils ont repris assez brillamment en fait les rênes du domaine, parce qu'à un moment, Louis-Claude étant un peu âgé, il peut être moins présent sur l'exploitation. Et il faut quand même souligner que les Desvignes, c'est quand même le seul domaine du Beaujolais qui a 3 étoiles à la RVF ou au Béthanet de Sceaux, là, guide des grands vins. Donc c'est quand même un signe. Et puis les vins sont superbes.
Et les deux personnes
sont vraiment
d'une humilité incroyable. C'est vraiment des stars là-bas.
Ouais.
Alors il y a d'autres types de stars pour les vins bio, la pierre, etc. Ouais. Mais eux, ils sont d'une humilité et d'une ouverture d'esprit extraordinaire. Super, et quand je suis allé les voir pour leur dire j'aime bien vos vins, j'aimerais bien les vendre. Ils m'ont dit, bah, désolé, j'en ai pas beaucoup, comme tout le monde, ou désolé, j'en ai pas du tout, d'abord. Et puis, en fait, c'est comme ça que j'ai convaincu un peu tous les vignerons, j'en ai maintenant plus d'une centaine, et c'est en allant les revoir tous les ans. Et donc, en les appelant, en leur envoyant des mails, en voyant comment mon catalogue grossissait, parce que je fais quand même un joli catalogue papier aussi, il y a pas mal de gens qui le demandent encore sur le site, et qui commandent sur des bons de commande qu'ils envoient par la poste, avec un timbre et tout. Et ces gens-là m'ont accueilli vraiment ouvertement, tout en me disant qu'il n'y avait pas assez de vin, mais qu'un jour, il y en aurait. Et puis, comme je m'acharnais, en fait, les vignerons aiment bien quand on s'acharne.
Donc,
j'ai reçu un coup de fil il y a deux jours de quelqu'un auprès de qui je m'acharne depuis 7 ans.
Et tu vas enfin avoir...
La patience paye.
Il a dit non dans le coup de fil. Hein,
si, mais là, ça y est, c'est le domaine des Cresses, Chenelon.
C'est sympa, ça.
Les Cresses.
Les fameux.
La superstar.
Ça nous redit deux choses, comme disait Dominique Buffet, notre parrain, c'est que les gens du Beaujolais sont des gens hyper accueillants, de manière générale, et les vignerons en particulier. Et que peut-être un vigneron d'exception, c'est aussi un vigneron humble. Souvent.
Souvent, et c'est vrai que j'en ai...
Les meilleurs sont souvent humbles.
Je ne sais pas si ça a un rapport avec la qualité du vin qu'ils font, mais en tout cas, c'est beaucoup plus agréable à côtoyer.
C'est sûr, le rapport à l'humilité, il y a une question qu'on a posée et qu'on a échangé sur laquelle on a échangé avec Bruno Cognoux il y a quelques émissions de cela. Il y a déjà une humilité face au terroir, en fait. C'est cette humilité-là peut-être la plus importante. Il peut être très fier de ce qu'il fait. Et certains vignerons, ils sont pas tous humbles. On va pas se raconter d'histoire. Certains sont quand même très contents de ce qu'ils font.
Et c'est respecter le terroir et encore, s'effacer devant le terroir quelque part.
Ils ont bien le droit s'ils font.
Et les générations aussi.
Mais être humble face au terroir, c'est-à-dire ne pas vouloir imprégner sa marque, mais avoir ce discours qui dit moi je travaille pour que le terroir s'exprime, est-ce que ça c'est aussi une marque de ce que tu appellerais un vigneron d'exception?
Avant ça, souvent les vignerons ce sont les enfants de leurs parents qui étaient eux-mêmes vignerons, on va dire dans les domaines comme les Desvignes par exemple ou d'autres, et avant ça je dirais que c'est plus l'enfant il n'existe pas tout seul, il existe par l'éducation de ses parents. Et je pense que c'est plus une en se disant que il hérite des vignes et de la façon de faire du vin de ses parents et qu'il va céder à une autre génération ensuite. Enfin, il y en a qui se plaignent des droits de succession, etc. Mais la plupart du temps, c'est plus quelque chose de transgénérationnel plus que le terroir ou pas le terroir. Parce que finalement, ça fait partie de leur formation, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils aillent à l'école, qu'ils se forment, qu'ils sachent maintenant la chimie du vin. Avant, on faisait le vin comme son grand-père, mais maintenant, il faut se former, il faut savoir quels sont les défauts.
Ils voyagent dans le monde entier.
Voilà,
il y a tout un réseau de vignerons.
Et c'est souvent les parents qui font
leurs enfants.
C'est les parents qui font ça en général pour que leurs enfants se forment petit à petit et créent l'envie, en fait. Quand on a envie de son enfant joue de la musique, on lui tape pas sur les doigts en lui disant tu vas jouer ça. Non, on lui dit tiens, écoute ça. Est-ce que c'est voilà. Pour moi, c'est pareil. C'est plus une question de transgénérationnel. Et alors le plus beau là-dedans, le plus beau vigneron d'exception, c'est effectivement celui qui n'a absolument pas de famille dans le vin et qui rêve de s'installer et qui le fait. Parce que ça, c'est juste quand même assez assez louable, parce qu'on sait très bien que les jeunes aujourd'hui cherchent peut-être à avoir des startups ou des trucs comme ça pour faire fortune, et etc. Mais on sait très bien que dans le vin, de toute façon, on va perdre tout ce qu'on a. Donc,
Philippe,
ça commence mal.
Transition parfaite. Ce sera le premier vin.
On connaît pas beaucoup de vignerons richissimes, on va dire.
Non,
sauf s'ils
sûr,
étaient
hein.
avant.
Ouais, sauf s'ils étaient avant ou sauf s'ils sont bourguignons.
La richesse est ailleurs. La richesse est ailleurs.
Philippe, on a déjà dans nos verres un Beaujolais du domaine Philippe Viette 2019.
Ouais,
de ta cuvée Mosaïque.
Ouais, c'est Mosaïque. C'est un 2019 là que j'ai pris sur cuve. Donc c'est brut de cuve. Hein, je l'ai pris ce matin.
Ah, il n'est pas encore tel qu'il sera en bouteille.
Il n'est pas encore embouteillé. Il va être embouteillé le 28 juillet.
15h15.
Ah oui, je sais pas quand, mais j'espère que ça sera plutôt le matin.
7h du matin. Comment pour pas qu'il fasse trop
chaud. Comment ça se fait que t'as une date aussi précise?
Parce qu'en fait, la date a été décalée. Ça devait être la semaine prochaine. Et en fait,
Explique-nous le processus. Ça veut dire que c'est pas, enfin, t'as tout le matos pour mettre en bouteille. Comment ça
non,
se
non,
passe?
Non, voilà, j'ai un prestataire, en fait, qui fait l'embouteillage.
T'as rendez-vous le 28 juillet.
J'ai rendez-vous le 28 juillet avec le prestataire. Parce que, bah, un groupe d'embouteillage, ça coûte ça coûte un bras, voire même plus. Et en général, les prestataires ont pris le, enfin,
ça sert pas à grand chose d'avoir sa propre, propre embouteillage.
Sauf si on a une production vraiment très importante. Par exemple, voilà, des gens comme les Lapierre à Morgon, eux, ils ont leur propre groupe d'embouteillage parce que ils font des centaines de milliers de bouteilles. Donc,
disons que ça n'apporte rien au vin. C'est une logique économique.
C'est une logique économique. Voilà. Donc là, vous avez des prestataires qui vous font ça très bien. Qui prennent en compte tous les paramètres que vous voulez pour que l'embouteillage se passe bien. Voilà, donc c'est ma tête de cuvée de Régnier. Donc c'est des parcelles, c'est la réunion de 3-4 parcelles en fait qui sont situées sur la Haute Ronze. Donc est un des très beaux.
C'est ton premier vin, on peut dire ça.
C'est mon premier vin, ça voilà.
Enfin, au sens, c'est la première cuvée, mais c'est aussi ton premier vin dans la gamme.
C'est la cuvée premium.
C'est la cuvée premium. C'est la cuvée premium. Voilà. Et donc en fait, c'est un assemblage de terroirs sur la Haute Ronze qui sont situés entre, on va dire, 420 et 500 mètres d'altitude sur des terroirs qui sont voilà, ce que je disais tout à l'heure, donc sable granitique, limon. C'est très caillouteux. Il y a des endroits, en fait, plus vous montez, plus il y a de cailloux. Donc plus les sols sont pauvres. Et donc en fait, ce que je trouvais intéressant dans cet assemblage, c'est que j'avais en fait sur les terroirs du bas, j'avais des degrés assez élevés, peut-être un peu au-dessus de 13. Et puis bah plus je montais, plus j'avais de l'acidité et puis des degrés qui étaient un peu moindres. Donc j'avais une alliance entre la puissance et puis la fraîcheur qui à mon sens fait un bel équilibre. Ça a été macéré pendant 17 jours. C'est vinifié sans soufre, un remontage par jour, deux foulages légers en fin de macération et puis un pressurage doux. Je l'ai mis en élevage dans deux amphores engrais et une cuve inox. Voilà. Et donc là, le 28 juillet, ça fera à peu près 10 mois d'élevage. Voilà.
Patrice, comment tu trouves ce domaine Philippe Viat en oubliant que c'est un camarade et qu'il est à côté de toi? Tristan, même question. On déguste. Hein.
Moi, je le connais pas. Mais je trouve ça très bon.
Merci.
C'est vrai que c'est magnifique. C'est vrai que je me demandais comment il était élevé parce que on sent qu'il n'y a pas que de l'inox.
Enfin, oui.
Alors, je me demandais si c'était le raisin ou si c'était l'élevage. Alors,
le ratio, c'est deux cuves, deux amphores engrais pour une amphore inox. Voilà.
C'est très joli.
Et ce que je trouve intéressant, c'est dans les contenants engrais, en fait, c'est qu'on a une micro-oxygénation qui est naturelle, mais par rapport à la terre cuite, vous avez moins d'échanges avec avec l'extérieur, donc moins de pertes, et donc des vins qui sont tout juste arrondis, mais voilà, qui vont encore avoir un potentiel pour voyager, pour que les tanins continuent à se fondre. Voilà.
J'ai l'impression que c'est une tendance aussi, les vignerons qui étaient en amphore passent de plus en plus à des choses qui sont moins poreuses.
Oui, je pense.
L'impression.
Je vois pas mal de gens en fait qui basculent. Alors, soit ils basculent donc de terre cuite vers du grès, ou alors ils basculent vers des contenants type ce qu'on appelle flex tank, donc c'est du polyéthylène à haute densité, c'est du plastique alimentaire hein, pour être vulgaire. Mais qui a une capacité en fait micro-oxygénante. Ouais.
C'est ces cubes là.
C'est des œufs. Enfin moi j'en ai. J'ai élevé mes Beaujolais Village dans ces cuves là. C'est des œufs. Cool. Voilà, en plastique alimentaire. Et ça fait des choses très intéressantes.
Voilà. Dans l'échelle de cette comment dire, cette porosité, cette capacité à oxygéner, à faire rentrer de l'air. On a le béton, le grès, la terre cuite, le plastique. Tu les classes comment? Le moins poreux, c'est l'inox. J'imagine qu'il n'y a rien qui passe.
L'inox, c'est un contenant qui est réducteur. Donc,
sans oxygène.
Il n'y a pas grand chose qui, il n'y a pas grand chose qui passe.
Au contraire de l'oxydation, c'est la réduction.
Après, bon, bah oui, vous avez des contenants comme le grès ou le plastique alimentaire, hein. C'est très micro-oxygénant, hein. Donc, vous avez un.
Ça passe, quoi.
Vous avez un échange, mais qui est.
Et le béton?
Qui est très limité. Bon, le béton,
pas beaucoup d'échanges. Non, ça passe pas.
C'est un contenant inerte, hein, le béton. C'est ce qu'on appelle un contenant inerte. D'accord. comme l'inox, hein, d'ailleurs.
Il y a des nouvelles cuves Void, là, où les vignerons, Laurent Combier me dit que de temps en temps.
Ah, mais du Nomblo, non? C'est la marque Nomblo.
Je sais pas si c'est une marque parce que c'est un de ses copains qui fait le ciment. Donc.
Discussion de spécialistes. C'est de la farge.
Ah oui, c'est son copain qui fait le ciment.
Ouais, c'est un des premiers à avoir fait les œufs béton.
Ah oui, d'accord.
C'était un de ses copains et puis après ça s'est répandu.
D'accord. Mais c'est pas Mathieu Barret aussi qui a.
Bah, ils sont copains.
Hein. Bah voilà, c'est ça parce que j'ai vu Mathieu Barret.
Mais si on vous embête, faut le dire, on peut aller faire un tour ailleurs.
Mathieu Barret vient de s'installer à un nouveau chai absolument exceptionnel avec des cuves qui sont en forme de Spoutnik.
Ah oui,
carrément.
Tu mets un vigneron et un marchand de vin, ben voilà, ça discute.
Et donc, non, moi, je le trouve excellent, Philippe, aussi. Je le trouve excellent aussi, très équilibré. Et
moi, je trouve très fruité, rafraîchissant, croquant. Bravo pour cette première cuvée.
Ça fait grand cru de Beaujolais. Enfin, ça fait cru de Beaujolais.
Je suis plutôt content. Après, voilà, j'avais dû déjà le dire, mais je suis pas un grand fan de l'extraction, pour l'extraction, c'est-à-dire en fait faire des pigeages, des choses que je trouve un peu brutales. Et puis après, bon, on est sur des terroirs de Régnier, donc on va pas faire des morgons, parce que les terroirs n'ont pas cette même capacité. Mais voilà, l'idée pour moi, c'était d'avoir une fraîcheur, une complexité, et puis quelque chose d'assez souple qui, pour que voilà, ça puisse s'apprécier.
Hyper agréable.
Tu penses qu'il y a du potentiel ou pas?
Là-dessus, je pense qu'il y a un beau potentiel.
Enfin, 5-7 ans.
Ouais, je pense que 5-7 ans, c'est une bonne fourchette. On peut peut-être avoir des surprises, mais je dirais quand même que 19. C'est un très beau millésime, mais je pense que les tanins sont c'est très doux, c'est très souple. C'est une vraie tendance, en fait, quand on dégustait un peu à droite, à gauche, chez les vignerons en 19, on avait toute cette tendance qui se dégageait. Donc, c'était un millésime qui était quand même, je dirais pas léger, mais, voilà, on n'était pas sur des vins très, très puissants, quoi.
Voilà. Philippe, une question.
L'élevage, rajoute pas de puissance non plus. Il n'y a pas de bois.
Bah non, comme j'ai pas de contenant en bois, non. Ouais.
J'ai une question. Est-ce que ce vin, est-ce que il correspond à l'idée que tu avais du vin que tu allais faire? C'est la première partie de ma question. Et la deuxième partie, qui est un peu connexe, c'est est-ce que en le goûtant comme ça, en toute humilité, tu te dis j'aurais fait un peu plus de ceci, un peu moins de cela?
Alors, quand je le goûte, je me dis que ça me plaît.
Donc déjà, c'est un bon point.
Donc c'est déjà un bon point. Et puis c'est à peu près en ligne avec l'idée.
Ça correspond à l'idée que t'avais.
Ça correspond à peu près à l'idée que je me fais des vins que je veux faire. Donc c'est-à-dire que c'est une première marche. Après, il va y avoir évidemment des corrections, des ajustements. Et puis en fait, au début, quand tu es en pleine vendange et puis que c'est la première fois que tu fais l'expérience de tes terroirs en vinif, en fait, tu fais comme tu peux avec les cuves que t'as et puis
il y a une part d'improvisation.
Il y a une part d'impro.
C'est pour ça que je pose cette question.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait,
voilà, mon premier jour de vendange c'était le 18 septembre l'année dernière. J'ai commencé en fait par ramasser en fait une parcelle d'Autron, ce qui fait un hectare et qui est l'objet en fait d'une cuvée parcellaire. Voilà, donc. À la fin de la journée, j'avais rempli la cuve à ras-bord. Il me restait en fait un bon 20 arts de cette parcelle-là qu'il fallait que je mette ailleurs. Donc le lendemain, je l'ai ramassé, je l'ai mis dans une autre cuve et puis j'ai ramassé les autres parcelles en suivant. Mais j'avais déjà à peu près dans la tête que c'était bien en fait d'avoir des morceaux en fait de parcelles qui allaient en fait à différents niveaux d'altitude pour avoir cette espèce d'équilibre avec des portions qui ont plus de degrés et des portions qui ont moins de degrés mais avec plus de fraîcheur et que ça pouvait faire peut-être quelque chose. Ça pourrait peut-être faire quelque chose. Et puis bon, il se trouve qu'avec un peu de... c'est...
Ça a bien donné.
Ça a bien donné. voilà, c'est ça.
Tristan, continuons sur le site Vigneron d'Exception. On a compris que un des enjeux, c'est le référencement, c'est d'être un peu acharné pour aller séduire, obtenir un peu des quantités auprès des vignerons que tu as envie de référencer.
Qui n'avaient pas du tout besoin de moi pour distribuer leur vin, c'est ça le problème. C'est que comme je visais un peu les très bons...
Oui, c'est ça. T'étais pas dans une logique, je vais aller aider des petits producteurs à se développer, mais plutôt d'offrir tout de suite des choses qui sont déjà établies avec des gens qui ont une certaine référence.
Au début, je m'autorisais aucun pas connu. Après, je m'en autorisais 1/10.
Voilà. Alors, je vais y venir sur l'éditorialisation qui me paraît être justement, moi, c'est... Comment dire? C'est l'angle par lequel j'ai eu envie de te recevoir ici, en fait. C'est-à-dire que je reçois cette newsletter, on reçoit chaque jeudi une newsletter Vigneron d'Exception ça m'interpelle en fait parce que pour moi c'est un média du vin en fait. C'est comme quand je lis un article, j'ai plaisir à lire cette newsletter qui est marchande au sens où on a les références, les prix, on peut cliquer et commander dans l'instant, mais qui raconte quand même une histoire. Ce truc-là me parle déjà. Et est-ce que pour toi c'était d'abord une idée dès le départ de dire je vais raconter une histoire ou c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps? Est-ce qu'on te fait des retours là-dessus? Mais moi, ça me paraît être quelque chose de structurant, en fait. Parce que il faut se différencier. Donc, on se différencie par l'offre, la qualité de l'offre. Tu l'as dit, Patrice, les prix sont très raisonnables. Mais j'imagine que d'autres font du prix. Et puis, on sait que d'autres font du prix et du prix de leur spécialité.
Voilà. Nous, on casse pas les prix.
Exactement. Mais cette éditorialisation, comment c'est venu, cette idée de la newsletter? Comment ça s'est constitué? Moi, je suis pas abonné depuis des années, mais depuis que j'ai créé ce podcast.
Alors, en fait, au tout début, j'ai plus envoyé des catalogues par la poste qu'envoyer des newsletters.
D'abord, c'est toi qui écris.
C'est moi qui écris. J'y passe à peu près entre un jour et un jour et demi par semaine. Donc, effectivement, j'aime bien écrire. Donc,
c'est du travail.
C'est du travail. Mais c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc, y a des gens qui disent « j'aimerais bien écrire un livre ». Moi, je sais que j'aurai jamais le temps. Donc, j'écris ma newsletter tous les jeudis.
et j'écris... Peut-être faire une somme des newsletters.
J'aime bien faire des blagues, etc. J'aime bien, j'essaye de la rendre vivante. Alors, de temps en temps, faut pas choquer, faut pas dire trop de choses. Mais au début, j'envoyais des catalogues. C'était plus la mode du tout. Et donc, je n'avais pas trouvé un gros public. Et du coup, je me suis dit, plutôt que d'envoyer une newsletter par mois, que j'appelle lettre d'information, j'essaye de pas trop utiliser d'anglicisme. Plutôt que non mais c'est... et du coup j'en ai envoyé une tous les 15 jours puis une toutes les semaines en me disant finalement si je raconte un peu des choses peut-être que les gens se désabonneront pas immédiatement et j'ai eu la chance d'avoir de plus en plus d'abonnés et de bouche à oreille etc. Et du
combien
coup,
d'abonnés aujourd'hui?
J'en ai à peu près 22 000.
Ah oui.
Et en fait au début j'en faisais beaucoup j'allais voir les vignerons, je leur disais vous avez pas des gens qui vous ont demandé d'acheter votre vin et puis comme vous n'en avez jamais à vendre moi je peux vous servir de relais en fait pour défendre votre image etc. au même titre qu'un caviste en fait. Donc aujourd'hui je me présente plus comme un caviste par téléphone qui vend des cartons entiers et qui livre à domicile et quand on me dit est-ce qu'on peut vous acheter 2, 3, 4 bouteilles, je dis non allez voir un caviste, il y a sûrement un caviste pas loin de chez vous. Donc voilà, je me présente comme ce complément-là. Et moi, ma seule façon de communiquer avec mes clients, c'est évidemment de raconter ma vie le jeudi ou de raconter la vie de mes vignerons comme le caviste le fait à chaque fois qu'il vend une bouteille. Donc moi, j'essaye d'avoir des jolis textes sur le site et de pas avoir de fautes d'orthographe, par exemple. Je suis un peu allergique. Mais j'essaye aussi de raconter des choses un peu sympas, des choses qui font en fait qui donnent envie de connaître le vin du type qui l'a fait quoi, tout simplement. Et pourquoi je l'ai choisi moi pour mettre dans ma gamme. Alors c'est vrai que si on me disait t'as pris Domaine du Vieux Télégraphe à Châteauneuf-du-Pape, c'est sûr que j'ai pas été réinventé la roue là. Mais il faut dire, j'adore ce vin, j'y ai passé 4 ou 5 ans de ma vie, donc je connais un peu cette région et c'est vrai que j'ai pris ce que j'aimais bien en tant qu'humain. Montolivet, c'est pareil, c'est des gens très sympathiques. J'ai plus pris ceux-là que d'autres qui avec lesquels je m'entends moins bien, avec lesquels je donc c'est vraiment je mets tout ce que j'ai dans ma newsletter le jeudi et cette lettre d'information les gens la forward. Alors on n'est pas très réseaux sociaux parce que soit on le fait bien, soit on le fait mal, et comme on n'est que trois dans la société, on le ferait mal. Donc je suis pas très, j'ai pas envie de raconter ma vie sur Instagram parce que ma vie c'est toujours un peu pareil. Je suis derrière un écran et puis de temps en temps je déguste des vins et puis de temps en temps je suis derrière un écran et puis de temps en temps j'écris ma news. Voilà, c'est toujours un peu la même chose. Et puis évidemment je ne vais pas assez voir les vignerons, mais cette lettre d'information c'est mon moyen de communication à moi. Voilà. Et beaucoup de vignerons sont abonnés d'ailleurs. Donc faut mais pas que je dise de bêtises.
Ça m'étonne pas du tout.
Voilà.
Il y a une autre chose qui relève, je trouve, un peu aussi de l'éditorialisation et qui, à ma connaissance, alors après je passe pas ma vie sur les sites marchands, vous allez me corriger peut-être, mais c'est les panachés, les cartons panachés. C'est des sortes de packages, je prends quelques exemples. Découverte bio blanc, best of Creuse Hermitage. Donc là, on a des sélections à l'intérieur de...
Best of Creuse Hermitage Saint-Joseph. C'est intéressant, c'est à trois bouteilles de chaque.
Voilà. Carton panaché.
Parce qu'ils vendent pas par trois bouteilles, je te rappelle. C'est par six.
Si les Claude et Lambret dont on parlait tout à l'heure. Si,
j'imagine.
Bourgogne blanc insolite.
Alors, insolite au sens de mes clients. C'est-à-dire que je me mets toujours à la place de mes clients. Et quand j'ai des clients au téléphone, parce que beaucoup demandent conseils quand même, mon collaborateur est un ancien caviste. Et donc on est deux à conseiller au téléphone, et le Bourgogne blanc insolite, c'est typique, c'est quand on disait ah ben je vous propose un Centenay, ou je vous propose un Marange, ou je vous propose des appellations qui sont un peu moins connues que Meursault, Puligny, Pommard, les gens disaient ah c'est amusant, vos petits vins de Bourgogne c'est insolite, etc. Donc je trouvais ça marrant parce qu'on n'a pas forcément des très grands connaisseurs. Ils disent ah ben moi j'aime bien, ah ben oui Pinot Noir j'aime bien, qu'est-ce que vous me conseillez. Donc voilà, c'est un peu comme
que Claude Lambret.
Non, ça souvent je dis c'est trop cher.
Ce mix, ça va aussi mixer des millésimes en domaine de Trévalon rouge 2007-2010. Un carton de 6, il doit y avoir un panachage entre les millésimes de 2007 à 2010.
Oui.
Très grand rouge du sud, on retrouve là-dedans. Il faut que je clique
sur le. Il doit y avoir du Bandol, il doit y avoir du Tempier, il doit y avoir des choses comme ça.
Oui, il y a des jolis. Ah, il y a des
du Trévalon,
du Trévalon, du Mont-Calmès.
Il y a Gobi, Tempier, oui. Canarelli, Claude Effet. Mas Julien.
Voilà. Et Montcalmès peut-être. Ouais. Je sais pas. Ouais. On les change régulièrement en fait.
Très valant.
Ces cartons. Ouais. On les change régulièrement ces cartons. On a commencé avec 2, 3, 4, puis on doit en avoir une dizaine maintenant. On fait aussi des découvertes de vignerons. J'ai un vigneron qui s'appelle Christophe Curta qui fait des extraordinaires. Christophe Curta, il fait des Saint-Joseph. Et il a commencé, c'est un fou de dégustation en fait à la base, et il a voulu se lancer, il était plutôt dans la cuisine. Et il fait des trucs absolument incroyables, à partir de 10 euros jusqu'à presque 30 euros. Et donc je me disais, c'est incroyable, toutes ces cuvées sont vraiment bien. Donc il faut que je fasse un carton panaché avec un blanc, un rouge.
La Romanée Conti, voilà. Du Curta en fait.
Exactement. Ça c'est plutôt Stéphane Augier qui fait ça là en ce moment. Il sort ses côtes rôties, comme il en a très très peu. Plutôt que d'en donner une à chacun, il donne un carton à chacun, enfin à chacun, ses distributeurs. Il donne un carton à chacun qui contient ses 6 cru de côte rôtie, enfin que lui a désigné comme cru parce qu'il a été formé en Bourgogne. Donc pour lui maintenant il y a les grands crus, les premiers crus et les villages. Donc son côte rôtie de base s'appelle village et après les autres sont nommés par leur lieu dit.
On goûte un autre vin. Il y avait une autre question là, t'allais Patrice.
Non, je disais qu'on revient toujours, plus ça va plus on revient à la Bourgogne. On n'arrive pas à s'en déprendre, que ce soit sur la notion de terroir, que ce soit sur la notion des crus, que ce soit, enfin, plus on en parle, plus on y revient, quoi.
Ce qui est étonnant, c'est qu'au début, j'en avais évidemment pas du tout, ouais. Puisque j'avais dit que j'avais pas les moyens pour faire les Bordeaux, et évidemment, à Bourgogne, c'est pas
pareil. Que sur le référentiel, des climats, des terroirs, des crus, de l'approche infusée, de l'approche en finesse.
Et il y a une école de vin. Sur place. Donc, la plupart des vignerons du Languedoc, du Rhône, etc., ils n'ont pas tous été à Suze-la-Rousse ou à Bordeaux, ils ont été à Beaune. Ils ont été à Beaune. Et là-bas, il y a vraiment une formation sérieuse, Vitiono. Après, le DNO se fait plutôt à Montpellier, si j'ai bien compris. Ouais. Mais bon, ça, là, on dépasse.
Mais oui,
moi, je suis plus un vendeur. Hein. Je le revendique d'être un vendeur, dégustateur. J'achète ce que j'aime. Mais
c'est un regret de pas être plus souvent chez Vigneron ou pas?
Oui, c'est vraiment un regret. Mais ceci dit, j'en ai beaucoup qui me remercient.
Oui,
j'en ai énormément qui me remercient. Au moins, toi, tu viens pas nous emmerder pendant un jour. C'est assez incroyable. Ils me remercient, ils me disent, au moins, toi, c'est simple, t'as ton allocation, tu fais un mail, tu payes cash. Il y a pas de souci, etc. Donc il m'aime bien pour tout ça.
le bon acheteur.
Non, mais c'est vrai que je leur fais. Aussi ils lisent ce que j'écris sur eux. Ils apprécient évidemment parce que si je parle d'eux, c'est pas en mal. Et d'ailleurs, j'ai des vignerons qui m'ont été demandés par des clients des choses qui sont incontournables, etc. Que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré.
Par exemple,
le vin qu'on va boire.
D'accord.
Et c'est un type que j'adorerais rencontrer, mais il est dans sa forêt là-bas. Vers Aniane. Donc il y a plein de gens très connus autour de cette région de Terrasse du Larzac. C'est une région qu'on peut dire en vogue. Hein. Il y a une AOP qui vient de tomber. Parmi les meilleurs producteurs de vin du sud, il y en a quand même un paquet qui sont dans ce coin-là. Dont les pionniers, je crois que Mas de Masgassac, ça doit pas être loin non plus. Donc 73, Monsieur Aimé Guibert, je crois, qui lance Mas de Masgassac pour faire un grand cru. Alors bon, il a planté du Cabernet Sauvignon et des choses comme ça, mais
très valant aussi, ça le rapport.
Voilà. Enfin, on est dans un coin avec un.
Donc un. Le domaine, c'est la Terrasse d'Élise.
Le vigneron s'appelle Xavier Brojou. Et j'ai amené ça justement pour ça, parce que je vends le vin d'un vigneron que je trouve exceptionnel, mais que je n'ai encore jamais rencontré parce qu'il habite un peu loin, et que il a.
Ça se fait sur un week-end. Hein. C'est un peu physique, mais ça se fait sur un week-end.
Je l'ai.
Clin d'œil à Patricia qu'on avait rencontré là-bas, qui défend les vins d'Aniane quotidiennement sur les réseaux sociaux.
Donc moi aussi je les défends à ma manière. Et ça pour moi c'est quelqu'un qui s'est lancé. Il était bûcheron. Il s'est lancé pendant les 10 premières années, il faisait en parallèle son boulot et le boulot de vigneron. Et ensuite, il s'est lancé à plein temps et il a un petit peu plus de 10 hectares. Donc je pense pas qu'il en vive extrêmement bien, mais c'est quelqu'un qui, moi, m'a touché par ses vins, quoi. C'est tout. C'est à la dégustation. J'ai dégusté ça. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Et en plus, il a une approche assez intéressante. C'est qu'il fait des cuvées monocépages.
Donc là, c'est la cuvée enclos.
Donc là, on goûte un Mourvèdre.
100% Mourvèdre.
100% Mourvèdre. Et bon, il est un peu jeune, désolé. C'est des trucs qu'on n'arrive pas à garder.
2017.
Et
jeune pour un Mourvèdre, en tout cas.
Voilà. Et il fait 4 cuvées. Il fait Mourvèdre, Carignan, Saint-Saul. Et il est vraiment, j'allais dire spécialisé, c'est un peu idiot de dire ça, mais il maîtrise vraiment, vraiment bien le Saint-Saul. Ouais, et il fait des choses qui sont d'un velouté, qui montre que le Saint-Saul, c'est pas fait pour faire du rosé seulement, quoi. Et donc, il fait des rouges absolument incroyables.
Oui, qui montre aussi surtout là que le Mourvèdre peut être buvable rapidement, sans que ce soit.
Je sais pas comment il fait. J'admire ses vins. Voilà. C'est juste pour ça que je les ai emmenés. Et je me suis battu pendant 3, 4, 5 ans pour les avoir parce que pour le coup, il a une jeune femme que je ne connais pas non plus qui répond aux mails le mercredi parce qu'elle ne travaille que le mercredi. Et j'ai mis du temps à réussir à en avoir. Donc avant, je passais par un de ses agents locaux mais c'était vraiment difficile. Et moi, je voulais avoir un contact avec le vigneron pour pouvoir raconter sa vie après dans ma newsletter du jeudi. Ouais. Et là, je n'en ai jamais
ça,
eu.
Ça, c'est une des clés aussi, c'est de passer le moins possible par des agents pour être en direct avec le domaine.
Oui, alors, de temps, il y a des domaines, des gens très très bien, qui disent, moi, je ne veux pas parler aux clients parce qu'il y en a trop. Et donc, j'ai des agents. Vous êtes à Paris, vous passez par Monsieur Bidule. Mais Monsieur Bidule, en fait, il sert juste à faire l'intermédiaire, la paperasserie, les choses comme ça, mais c'est pas lui qui a les vins. Le vin, il vient directement du domaine, livré directement et facturé directement du domaine. Donc l'agent, c'est juste quelqu'un qui s'occupe. C'est comme c'est des gens qui sont de très bons conseils aussi, bien sûr. Hein, mais ce n'est pas ce n'est pas un intermédiaire, voilà, c'est une sorte de directeur comme super directeur commercial pour les domaines. Et je préfère évidemment toujours être en direct parce que j'ai le contact direct. Mais quand les vignerons veulent pas, ils veulent pas. Hein, ça se respecte parce qu'il y en a qui veulent pas pour de très bonnes raisons, c'est qu'ils ont pas le temps, ils sont dans la vigne.
Bien sûr.
Et ils ont pas envie de passer les deux heures qu'ils ont de libre dans la semaine à parler à des gens qui vont les emmerder avec des histoires de facturation, de choses qui n'ont aucun intérêt à leurs yeux.
Mmh. Plus grande satisfaction de, je vais pas faire des classements, mais de vignerons acquis, on va dire. Et la plus grande déception. De ne pas l'avoir.
Il y a des vins qu'on rêverait d'avoir, mais on sait qu'on en aurait deux bouteilles. Donc la lutte pour avoir deux bouteilles serait tellement âpre que ça vaut pas le coup. Voilà. Donc moi, c'est Rayas, ma plus grande déception, parce que j'adore ce vin. Je trouve ça absolument.
On en parlait dans l'épisode.
Château des Tours. C'est pas possible ça.
Mais en fait, il faut réellement.
Il faut le voir à la réno, là.
Non, il faut y aller et il faut montrer patte blanche. Il faut dire ce qu'il faut. Moi, je dis ce que je pense, donc je suis pas sûr que j'en aurai. Et je n'ai même pas essayé de le démarcher plus. J'ai dû m'accrocher 2-3 ans. Et après, tout le monde m'a raconté parce que je connais pas énormément de monde dans le monde du vin, mais tout le monde m'a dit, de toute façon, si t'en auras 3 bouteilles, qu'est-ce que tu vas en faire? Et effectivement, je pourrais les boire, je pourrais les donner à des bons amis ou les boire avec des bons amis, mais ça sert à rien pour faire une affaire de vente par carton entier qui est pour moi la seule solution de ne pas perdre d'argent en vendant à distance et en livrant à domicile. Après, des satisfactions, c'est vrai que j'étais très content quand Juliette Joblot m'a accepté de me vendre du vin parce que pareil, j'attendais depuis pas mal de temps et j'adore ces vins aussi. Bon, je suis désolé, c'est du Bourgogne, mais ça fait partie des Bourgognes insolites dont on pourrait parler parce que ça n'est que du Givry. Mais c'est des vins que je trouve absolument merveilleux parce qu'ils valent moins d'une trentaine d'euros et ils donnent moi ça me fait, j'ai des frissons quand je goûte ce genre de vin, blanc comme rouge d'ailleurs. Après, il y a des choses, les vins de Xavier Brojoux, quand j'ai dégusté le Haute-Carole, ce qui est sa cuvée Saint-Sau, comment on dit, premium, voilà, ouais, sa grande cuvée de Saint-Sau, c'est un truc incroyable, quoi, incroyable. J'étais au restaurant, on m'avait conseillé ça, je connaissais pas, c'était il y a pas mal d'années, c'était en 2014. Il venait juste d'arriver et c'était dingue, quoi, c'était dingue ce truc. Et donc, c'est des trucs, mais il y en a plein en fait. Hein. Il y en a plein.
En tout cas, est-ce que tu as eu des est-ce que ça t'est arrivé aussi d'avoir des déceptions sur certains vignerons où tu as constaté que il y avait eu peut-être des baisses de qualité sur des millésimes et que ça ne justifie pas leur présence dans ton catalogue.
Alors,
sans citer de nom, hein, évidemment, mais est-ce que ça a pu t'arriver?
J'en ai un.
D'accord.
Je suis assez content parce que je n'en ai qu'un, mais ceci dit, c'est un où j'ai des peut-être un petit peu trop sans soufre. Donc j'ai appris de ça et en fait maintenant j'essaye de pas vendre de vin sans soufre complètement parce que je veux livrer à domicile, je peux pas garantir que le camion frigo aille jusqu'à la porte de mon client et moi. Mathieu Lapierre qui fait une cuvée avec et une cuvée sans soufre. Ouais. Je m'interdis de vendre sa cuvée sans soufre parce que je pense que, et j'ai évidemment ça fait 30 ans que je vends du vin, donc j'ai eu des déconvenues dans d'autres sociétés où
ça voyage mal.
Il y a des fabuleuses bouteilles et puis il y a des bouteilles qui sont moins bien. Et quand on vend un carton entier ou voire 12 bouteilles à un même client et qu'il faut reprendre les 11 autres parce qu'il n'a pas aimé la première alors que la seconde sera peut-être
fabuleuse. C'est pas un argument marketing, quoi.
Ça n'est pas un argument marketing et c'est surtout extrêmement compliqué quand on est à distance. Quand on est au restaurant et qu'on change le vin bouchonné, je le fais aussi, hein. Je change les bouteilles bouchonnées, mais qu'est-ce que c'est compliqué? Et les gens me disent, il est bouchonné, reprenez-moi toute la caisse parce que les autres seront bouchonnés aussi. Et j'ai beau expliquer que non, c'est aléatoire, etc. Ouais, voilà. Donc c'est un petit peu plus compliqué d'être à distance. J'essaie de pas vendre de vin.
Il y a une volonté pour revenir au sujet un petit peu habituel, mais il y a une volonté d'être bio, biodynamie ou pas.
Aucune volonté, absolument aucune volonté. Le seul truc, c'est que quand je regarde le nombre de vins bio que j'ai, ça m'impressionne. Je crois que je dois être à 80% de vins bio. Mais moi, c'est très compliqué parce que c'est pareil. J'approvisionne les vins dans un chai en Bourgogne. Donc, je ne vois pas tout ce que j'approvisionne. Évidemment, je demande toujours un échantillon, soit au bureau, soit je me déplace, soit je vais dans les salons. Mais j'ai pas toujours la photo de l'étiquette. Et il y a un paquet de vignerons qui n'ont pas le label, qui ont le certificat, mais qui le mettent pas sur leur étiquette. Et donc, je ne veux pas dire ce vin est bio si c'est pas sur l'étiquette, parce que sinon, je vais avoir des clients qui vont m'appeler en me disant, mais vous avez dit que ce vin est bio, mais en fait, vous êtes un salopard d'internet qui raconte que des conneries comme tous les autres. Ce que j'essaye de pas faire, évidemment. Et du coup, je pense que je suis à moins de la moitié avec le logo bio sur l'étiquette, beaucoup moins de la moitié. En revanche, j'ai des vignerons qui me disent, oui, mais j'ai le certificat, je te l'envoie par email et puis tu peux l'envoyer à tes clients s'ils le demandent. Évidemment, personne va s'amuser à le demander, mais du coup, je ne fais pas le compte. Voilà. Mais j'ai beaucoup de vignerons qui sont bio. Et puis après, il y en a qui disent j'applique les principes de la biodynamie, mais je ne m'interdis pas. Voilà, j'ai Vincent, enfin le domaine Vincent Pinard, donc ouais, Clément Pinard. Ils ont pas le logo. Et quand je lui ai dit, voilà, c'est un peu gênant parce que moi je dis que vous êtes pas bio, mais en fait vous m'expliquez que vous êtes bio. Il me dit ouais, quand même en 2013 j'ai dû faire un traitement. Bon. Et je veux pouvoir en refaire un si ça se passait mal. Donc, ça fait depuis 7 ans que j'ai pas fait de traitement où il m'a dit un truc comme ça. Et donc, ben voilà pourquoi j'ai pas le logo bio. Donc, il est pas bio. Pour moi, il est pas bio et je vais pas dire aux gens qu'il est bio.
Est-ce que, j'ai vu qu'il y avait, c'est quoi le futur de Nyon d'exception? C'est l'étranger, parce que j'ai vu qu'il y avait des débuts d'Espagne avec Combier,
Les
Chiden.
Ouais, les vins de Chiden, en fait, c'est tout simplement ce que je les ai goûtés, j'ai trouvé bon. Donc, la logistique du vin étranger est assez compliquée. On est difficilement en relation avec le vigneron, et vous avez compris que c'était un truc qui me tient à cœur. Donc, c'est assez compliqué. En fait, je connais quelques vignerons.
Des Français qui font des choses en Espagne.
Alors, pour l'instant, les Français qui font des choses à l'étranger, quand on goûte et qu'on aime bien, on se dit pourquoi s'interdire ? Puisque quand je vais approvisionner le Cros Hermitage de Laurent Combier, je peux aussi acheter son Riou espagnol. Les petits vins de François Chiden, c'est incroyable, ça vaut 10 euros. C'est des 2013, je crois. À 10 euros, ça mérite vraiment. C'est des vins, c'est un peu âgé, mais c'est des choses qui méritent le détour. C'est appellation Bulas. C'est très rigolo.
Je crois qu'il avait fait ça à l'époque où il avait été frappé plusieurs fois par le gel, je crois, où il avait besoin de...
Alors ça, c'est autre chose. Il a fait un chenin d'ailleurs, en fait.
Ah oui, avec
des chenins de Limoux bio. Qui était extraordinaire pour moi, parce que quand j'ai goûté ça, je me suis dit waouh, c'est pas du chenin, c'est pas du Limoux, c'est du chenin, et en plus c'est du Chiden à 12 euros. Alors ça, le vendeur de vin là n'a fait qu'un tour, hein. et c'était délicieux, et ça l'est toujours, et du coup il a continué à le faire, son chenin d'ailleurs. Alors que là, Bulas n'en sait plus parce que son épouse est espagnole et que je pense qu'il y va un peu de temps en temps et qu'il a des accointances là-bas, mais il fait un vin, voilà. Sinon c'est mon Louis, il faut payer 20-30 euros, et donc on est très content d'avoir la signature Chiden, parce que mine de rien, quand on vend ses vins chers, on a les moyens de s'acheter du bon matos, et quand on a du bon matos, c'est plus facile de faire du bon vin. Et en plus, on peut, on peut désinfecter ses tuyaux. Basile Saint-Germain, au domaine des Aurelles, il m'expliquait que, donc c'est dans le Languedoc, il vend ses vins après 6 ou 7 ans de cave, donc faut avoir certains moyens. Et il m'expliquait qu'il met 3 heures à laver ses chais tous les jours en période de vendange, parce qu'il désinfecte tout, etc., parce qu'il veut pas mettre de soufre, etc. Enfin, il est pas bio, lui il est plutôt Cosmo, mais il fait des trucs absolument incroyables.
Cosmopolitaine,
c'est
Cosmoculture.
Non, enfin, c'est
strato biodynamique.
Non, mais justement, en plus, c'est même pas ça. Une fois, il m'avait dit, attention, mettez pas de code-barre, mettez pas de code-barre sur la palette que je vous envoie, parce que les transporteurs vont scanner le code-barre
et ça va abîmer
le vin pour les ondes, etc. Donc moi, c'est vrai que ça me parle pas trop, mais j'ai demandé au transporteur de mettre une feuille de papier d'alu sous l'étiquette.
Sous l'étiquette.
Et comme ça, le vigneron n'a pas les ondes, parce qu'il croit ça. Moi, je respecte. Bon, c'est
tant qu'il me vend ses vins, je respecte.
Non, et puis c'est, non, mais c'est des gens extrêmement attachants, oui, et ils croient tellement à leurs choses, et en plus, c'est des vins qui se vendent. Ça vaut quand même assez cher, hein, parce qu'ils les gardent longtemps. Ça vaut, je sais pas, 70 €. Ouais. C'est un peu comme du Père Rose. Hein. Père Rose. Alors, il y a une cuvée à 35, mais il y a une cuvée à
80 balles. Ouais.
Il y a une verticale Père Rose dans les. Dans
oui,
les
fameux, ça, j'ai pas pu m'empêcher.
Faudrait que je goûte son blanc quand même.
Parce que j'ai un truc que je fais qui se faisait à Bordeaux, mais qui se fait quand même plus beaucoup, c'est que je garde les vins.
Oui, alors c'était le dernier point. On a déjà passé pas mal de temps, mais dans le modèle économique, il y a la conservation,
voilà,
qui fait que tu peux vendre des millésimes, pas forcément des très très vieux millésimes, mais des millésimes. T'as pas que les vins de l'année, quoi. T'as quelques vins.
Absolument.
Et qui en sont fait, conservés dans des bonnes conditions.
J'ai un concurrent sur Internet aujourd'hui qui me fait très mal. C'est les gens qui font des ventes privées. Parce qu'ils utilisent l'image des vignerons que tous les cavistes de France participent à créer problème, toute l'année en vendant leur vin toute l'année. Et ce que je fais aussi, enfin, ce que j'estime faire à mon niveau, mon modeste niveau, même si je suis pas caviste. Et les gens qui font des ventes privées, bah, c'est le coût du déstockage des sites qu'on connaît bien. C'est, je prends un vin, je casse le prix et puis j'utilise l'image du bon vigneron et je vais lui raconter essentiellement n'importe quoi au vigneron en lui disant tu vas voir je vais te sortir un camion ou un truc et ça va être super pour ton image parce que j'ai des millions d'abonnés, je fais de la pub télé, etc. Et donc ces gens-là vont brader des vins sur 2-3 jours et ça fait assez mal quand on les vend toute la journée et que toute l'année et qu'on a un client qui vient nous dire vous êtes un voleur, vous vendez ce vin à tel prix, etc.
C'est pas moi.
Et je dis oui, mais moi je suis au prix du vente du domaine, je respecte le domaine et je vends au même prix, je vais pas aller casser son marché, contrairement à ces gens qui le font en plus parfois le week-end pour pas que ça se voit, etc. Bref, il y a des choses assez folles et puis il raconte des trucs au vigneron, puis après ils lui diront ah ben je savais pas, et puis effectivement le vigneron il est pas devant son écran toute la journée. Donc la façon de lutter contre ces gens-là, c'est de faire ce que eux ne peuvent pas faire, puisque eux, ils ont pas les moyens de garder des vins et ils ont pas de stock, donc c'est leur modèle. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils peuvent casser les prix sans trop perdre d'argent, même si la plupart perdent beaucoup d'argent. Et il faut consulter le site société.com, ça marche très bien pour voir les sociétés qui vont faire faillite, parce qu'il y a un site qui s'appelait 1855.com qui a fait tous nos clients nous en parlent, donc c'est pour ça que je connais bien la chose.
Et j'ai perdu 800 € avec.
Voilà, et ils vendaient pas cher, mais ils avaient pas les moyens
Mais surtout ils avaient pas les stocks.
Et en plus imprimeur de Bordeaux. Ouais. Donc l'histoire est que moi si je voulais vivre, comme je revendique être plutôt un gestionnaire qu'un vigneron, je me suis dit la bonne chose à faire, c'est ce que fait Bordeaux depuis 200 ans, c'est-à-dire je vais avoir, et c'est aussi pour ça que je voulais des bons vignerons accessoirement, parce que si je vendais les vins de l'année qui étaient foutus l'année d'après, c'était pas terrible. Donc je voulais des vins de garde, d'où les gobies, j'ai encore des Muntada 2010, j'ai des choses sympas quand même, et surtout il y a des vins de garde qui sont pas extrêmement chers et qu'on peut garder, des Cabernet Franc de Loire, des Chinon, des Bourgueil. Domaine de la Chevellerie à Bourgueil, on vend des 2012, 13, 14 en ce moment, non plutôt 14 d'ailleurs, qui sont à tomber par terre et qui valent moins de 20 €. Donc il y a des choses comme ça qui sont qui me permettent de me
souvenir de dégustation de Domaine de la Chevellerie. Hein.
Ah,
je l'ai fait. 14 vins d'affilée. Les 14.
C'est hard, hein, parce que le Cabernet Franc, c'est hard.
Il faut tenir. Au 13e, déjà, j'étais pas bien.
Mais le 14e, j'étais plus. Le truc, c'est que dans les salons, etc., on goûte le domaine de, on goûte le 2016 en ce moment, ou le 2015. Mais les 2012 sont, ou 11 sont à tomber. Bon, voilà.
Merci infiniment, Tristan Depau, de nous avoir parlé de ce site Vigneron d'Exception. Figure-toi, t'es le premier caviste en ligne, hein, 66 voilà. Émissions qu'on reçoit.
Oh bah c'est sympa.
Il y en a, non mais c'est pour faire un clin d'œil à ceux que tu nommais sans les nommer. On va pas les inviter tout de suite, ou alors pour leur poser des questions sur leur pratique à la limite, mais comme on a plutôt envie d'inviter des gens dont on apprécie le travail. Il y a d'autres sites en ligne, dont on a pu parler à l'occasion.
Il y en a plein, labouteille.com.
Moi j'aime bien labouteille.com parce que j'y retrouve beaucoup de vins qu'on a chroniqués dans l'émission. Il y a Laurent qui me fait des signes pour dire mais vous avez rien dit sur le Mourvèdre. C'est vrai qu'un mot
vrai qu'on
pour
a rien
finir
dit.
Sur ce Mourvèdre. Comment le trouvez-vous, chers amis ?
Moi, je le trouve superbe.
C'est très agréable, on dirait pas du tout un Mourvèdre déjà. Ouais. Enfin, le Mourvèdre c'est quand même plutôt la structure des vins de Bandol en général, pour donner la caricature. Donc c'est quand même plutôt la structure
poivrée,
tannique, la force, l'intensité. Là c'est vrai que c'est tout en rondeur, tout en douceur.
Il y a des belles notes
pour un vin jeune en fait.
Il y a des belles notes de tabac. Pour un Mourvèdre jeune.
Et dans 5 ans ça sera fabuleux ce truc là.
Superbe note de tabac. C'est fumé, c'est poivré.
Mais très.
C'est puissant et puis en même temps il y a cette à ce côté très souple, j'aime beaucoup.
C'est d'une délicatesse, je trouve.
Et
il fait le Carignan. C'est ça qui est fou, c'est que son Carignan est pareil, son Cinsault est pareil. À chaque fois, il y a cette pâte qui est d'une élégance.
Oui, c'est ça.
Mais on retrouve quand même
son écriture, en fait. De
c'est Miro. Puissant. C'est quand même puissant. Il y a de l'alcool. Enfin,
on peut
le placer.
Ça se sent bien. Enfin, ça passe bien.
Ça passe bien. Ouais.
Voilà, ce qui est intéressant en fait dans ce domaine, pour être dans les terrasses du Larzac, en fait, il casse un peu en fait l'approche classique de l'assemblage Grenache Syrah Mourvèdre, un peu la signature en fait de l'appellation.
Autre, dans les Carignans, il y a aussi les vignes de Lagarrigue de chez domaine Saint-Sylvestre que j'aime beaucoup.
Bah, grand Carignan aussi. Saint-Sylvestre, ils font des très beaux Carignans en carbonique, je crois d'ailleurs, si je me souviens bien.
Moi, le 100% Mourvèdre me rappelle un vin d'André Lénart, également Terrasse du Larzac. Enfin non, lui, il est Pic-Saint-Loup, plutôt en appellation, et qui était un des vins justement qui m'avait beaucoup plu, beaucoup ému. C'était pas exactement ça, mais il y avait cette douceur, de la puissance dans la douceur et en même temps un velouté. Le Mourvèdre, c'est quand même un cépage assez exceptionnel quand il est vinifié comme ça tout seul. Ça passe pas inaperçu.
Et bien élevé.
Oui, c'est ça.
Mais moi, c'est marrant parce que j'avais jamais fait le rapprochement, mais ça m'a fait penser à un 100% Mourvèdre que René Rostin avait fait dans son domaine du sud près d'Anglade, qui s'appelle Puech Noble, c'est son petit Languedoc, il s'est fait plaisir, etc.
Rostin est en Rhône.
En Côte-Rôtie.
En
Côte-Rôtie, c'est un des grands de la Côte-Rôtie, même s'il est pas très connu, mais parce qu'il exporte tout, donc il est pas connu en France, forcément. Et moi, je me suis battu, j'en ai eu, quand même. C'est bien, mais j'ai dû y aller avec un ami qui est son importateur hollandais, qui m'a présenté.
Vous avez parlé flamand?
Non, moi je parle pas flamand.
Rotfodome.
C'était pour boucler.
Non.
Merci Tristan Depau.
Merci Tristan.
Rendez-vous
Merci
sur.
Merci de m'avoir invité.
De rien, c'est un plaisir.
Ça fait plaisir rendez-vous de quitter ces écrans.
Sur vignerondexception.com pour découvrir des vins. Abonnez-vous à cette newsletter que moi je lis toujours avec plaisir. On a l'impression d'avoir des nouvelles des vignobles et puis aussi d'une sorte d'aventure entrepreneuriale aussi. J'ai réussi à avoir ces vins-là nouveaux. T'as introduit des nouveaux domaines, des nouveaux vignerons au milieu de ces grands noms, de ces étiquettes si renommées. Et puis, rappelons-le, c'est l'occasion d'avoir certains vins qui sont quand même assez difficiles à trouver par ailleurs.
Prix raisonnables et globalement, enfin, j'ai pas tout regardé, mais je pense que 99%, c'est vous pouvez acheter.
Ouais, on essaye d'être au prix du domaine
c'est
en fait. On fait pas des petites promos avec des étoiles partout en faisant. Mais on essaye d'être au prix au même prix que le domaine on peut, bien sûr.
Et puis les cartons panachés là pour faire des cadeaux à des amis qui aiment le vin, ça, je crois que ça fonctionne assez bien.
On faut se mettre à plusieurs.
Pour certains.
Non.
Merci, on se retrouve dans une paire de semaines. Suivez La Terre à Boire sur les différents réseaux sociaux. Écrivez-nous, critiquez-nous, parlez-nous.
Philippe Bonnevendange.
Sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Philippe Bonnevendange. Bon embouteillage le 28 juillet.
Et bravo pour cette cuvée.
Merci.
Bravo
beaucoup
pour ce premier vin. Et puis.
Avant les vendanges, je vais essayer de prendre une semaine de vacances.
Ouais, ça, c'est un grand truc des vignerons, ça. Partir en vacances juste avant les vendanges.
Ouais.
C'est vrai, hein?
Ouais,
parce qu'après c'est une grande ligne droite.
Après il y a la grande ligne droite et puis une fois que les malots sont finis, on réattaque les salons, les rebrochages, enfin tout ça quoi.
Il faut vendre.
Ouais, faut vendre.
À très bientôt. Merci Philippe. Merci Patrice.
Merci à vous.
Merci Tristan. À très bientôt. Bye bye.
Bonne soirée.